BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le 18-19. On va parler de foot, évidemment, de foot business, et on va parler de SFR, de télécom, de médias et de conjoncture avec Olivier Roussa, lui directeur général de Bouygues. Il fête ses 10 ans à la tête de Bouygues, et puis surtout il vient de signer ce gros rachat de SFR avec ses autres concurrents Free et Orange. Le problème, c'est bon, quel coût, qu'est-ce qu'il faudra faire comme concession à l'autorité de concurrence, quel coût social pour le rachat de SFR, et puis on parlera aussi peut-être des ambitions retrouvées de Bouygues dans la télévision. Et puis donc, je vous disais qu'on allait parler de foot, c'est le jour où, puisque la France entre en lice ce soir. On en parlera avec deux économistes, Luc Arondel et Richard Duhautois. Mais pour l'instant, place au journal avec Erwan Maurice.
Le journal.
Il est 18h, un petit peu moins 18h, bonsoir Erwan.
Bonsoir Edwige.
Et on commence par évidemment le G7 à Évian. Les pays du G7 apportent leur soutien à l'Ukraine en présence de Vladimir Zelensky.
Les grandes puissances sont d'accord pour augmenter la pression sur Moscou via des sanctions sur l'énergie, c'est ce que dit une source diplomatique ce soir. Le Royaume-Uni et le Canada ont déjà annoncé de nouvelles sanctions. Elles ciblent notamment les navires de la flotte fantôme russe. Les pays du G7 devraient également fournir à l'Ukraine des moyens supplémentaires de défense antiaérienne. Les pétroliers iraniens recommencent à circuler. Cela marque la levée du blocus américain qui paralysait les ports iraniens depuis un mois. Washington l'avait imposé en réponse au verrouillage du détroit d'Ormuz par Téhéran. Selon Donald Trump, le détroit sera d'ailleurs complètement rouvert ce vendredi, jour prévu pour la signature du cadre d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Dans l'actualité des entreprises aux États-Unis, d'abord fraîchement introduit au Nasdaq, SpaceX annonce racheter l'éditeur de code Cursor, valorisé 60 milliards de dollars. Et cette acquisition doit permettre au groupe d'Elon Musk d'accroître sa diversification dans le domaine de l'IA. Et cela fait bondir le titre de 9%. SpaceX est désormais la cinquième plus grosse capitalisation boursière du monde devant Amazon. Autre acquisition aux États-Unis, toujours Yum Brands vend Pizza Hut pour 2,7 milliards de dollars. En difficulté, le groupe de restauration s'est fait distancer par son concurrent Domino's. En France, les renseignements rompent avec la société américaine Palantir au profit du français Chaps Vision. Le Premier ministre dit vouloir bâtir une autonomie pour ne pas dépendre du bon vouloir de certains partenaires, capable de couper le robinet d'accès à l'IA. Et puis le BHV Marais est finalement cédé à un nouvel exploitant, son ex-directeur général Karl-Stéphane Cotendin, qui va opérer un grand repositionnement et mettre fin à la collaboration décriée avec Shein. Tous les détails sur ce dossier dans le 19h Echo. Bonsoir Antoine Larigauderie.
Bonsoir Erwan, bonsoir Edwige.
Bonsoir Antoine.
Et c'est donc du vert à la Bourse de Paris.
Oui, on a plutôt bien clôturé, plus 0,75% à 8 447 points pour l'indice phare de la Bourse de Paris, qui doucement se rapproche de ses niveaux de mars dernier. On avait signé notre dernier record historique, on en est à 150-200 points en gros. À noter quand même une très nette contre-performance de la tech européenne. L'Euronext Tech Leaders lui a perdu 1,29%, mais en attendant, le CAC 40 surperforme le reste de l'Europe boursière. L'Eurostock 50 ne gagne que 0,45%. À noter les principaux contributeurs du jour, Publicis qui a gagné 2,5% à 92,12€, Schneider Electric aussi, plus 2,5% à 276,95€. Et puis, c'est le grand réveil du secteur du luxe, quand même Hermès, plus 2,19€, 1749,50€, LVMH plus 1,50€, 520,30€. À la baisse, on en a parlé, la tech qui sous-performe, en particulier STMicroelectronics avec une émission obligataire qui a pesé sur la valeur de l'action. Le titre perd 4% à 65,68€. Et puis sinon, à signaler le secteur auto qui a été plombé, moins 3,4% pour Renault à 27,82€ et Stellantis, moins 1,94€, 5,97€. Les volumes d'échange, 4 milliards d'euros d'actions négociées. Le CAC, plus 0,75€, 8 447.
Merci Antoine, merci Erwan. On vous retrouve 19h, 19h30 pour le grand journal de l'Écho. Tout de suite, c'est le 18-19. À 18h30, je recevrai Olivier Roussa, le patron de Bouygues, après l'accord sur SFR. Et puis dans un instant, on va parler du foot, forcément, on va parler du foot business.
BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon.
Vous êtes bien dans le 18-19, évidemment, c'est le jour où on va parler de football, de foot business, puisque ça y est, la France rentre en lice ce soir et c'est le sixième jour de compétition pour la Coupe du Monde. Alors, est-ce que cette Coupe du Monde est symbole du foot business? On va en parler avec deux économistes qui sont spécialisés dans le foot, entre autres, et puis je pense que ce sont des amateurs de foot. On en parle avec Luc Arondel et Richard Duhautois. Luc Arondel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS. J'ai envie de dire, quand on parle du foot, ça fait très très sérieux de dire directeur de recherche sur le foot, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui.
Oui. Ça existe, on peut être derrière.
Oui, il n'y a que moi, mais ça.
Il n'y a que vous, mais voilà, mais c'est l'essentiel.
Mais c'est quoi?
Et vous êtes aussi chercheur à Paris School of Economics. Face à vous, avec vous, puisque c'est votre co-auteur, Richard Duhautois, qui est lui aussi économiste, qui est chercheur au CNAM, entre autres. Bonsoir.
Bonsoir.
Et donc, au CNAM, on réfléchit sur les métiers du football.
Oui, bah, c'est un peu comme Luc, je pense que je suis le seul.
Ah oui, d'accord. Enfin, en tous les cas, vous avez commis un crime, si j'ose dire, si vous avez écrit le Foot Business, les 30 Glorieuses, et c'est publié chez Odile Jacob. Je disais, là, on est sixième jour de compétition en Amérique du Nord, la Coupe du Monde bat son plein, et enfin, ce soir, la France rentre en lice face au Sénégal. Est-ce que là, on est, avec cette Coupe du Monde, on est un peu dans la quintessence du foot business? Je ne sais pas qui répond le premier.
Je vais commencer. Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais simplement que c'est un petit peu dans la continuité de la croissance des revenus de la Coupe du Monde. Au Qatar, on était à un chiffre d'affaires de l'ordre de 6 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est à 9 milliards de dollars parce qu'effectivement.
Ah, c'est une petite croissance, 3 milliards en 4 ans, quand même.
Oui, oui, c'est une croissance. Mais il faut aussi relativiser ces chiffres. C'est comme le sport le plus populaire de la planète. C'est pas, il y a quand même des milliards de gens qui le regardent. Donc, c'est extrêmement populaire, et donc c'est vrai qu'au regard de la popularité du foot, c'est pas des chiffres d'affaires astronomiques. Si on rapporte ça par exemple au football américain, la NFL, c'est 20 milliards de dollars par an. Là, moi, j'ai regardé, effectivement, si on regarde le chiffre d'affaires des dix clubs les plus riches en Europe, on est à peu près à ce niveau-là, quoi. Donc, il faut pas non plus exagérer l'importance de ces sommes.
Oui, en même temps, Richard Duhautois, on voit bien quand même qu'on voit les prix des places, qui est quand même ahurissant. Alors, je parle même pas de la finale, mais même pour avoir une place, c'est 400 $, 500 $.
Oui. Alors ça aussi, il faut un petit peu relativiser, puisqu'en effet, sur les 9 milliards dont Luc parlait, c'est vrai qu'il y a 3 milliards qui sont issus de la billetterie. Et donc, en effet, par rapport, par exemple, à la dernière Coupe du Monde au Qatar, ça passe de 1 à 3 milliards. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le marché américain, notamment les consommateurs, ils sont sans doute prêts à payer beaucoup plus que ce qui se passait au Qatar ou en Russie, ou ce qui se passera peut-être en 2030 en Espagne, au Portugal et au Maroc. Je vous donne simplement un chiffre, c'est que les 10% les plus riches aux États-Unis, donc ils sont 3 à 4 fois plus riches que les 10% les plus riches en France, et ils sont 5 fois plus nombreux. Donc en gros, c'est à peu près 34 millions de consommateurs.
Mais alors, excusez-moi, ça veut donc dire que, enfin, si je vous écoute bien, ça veut donc dire que le foot, là, c'est fait vraiment pour les ultra-riches, quoi. C'est pas fait pour... Normalement, le football, c'est quand même le sport... Vous-même, vous l'écrivez, le sport le plus populaire.
Oui, alors, je me permets
de répondre.
Donc, aux États-Unis, c'est quand même un petit peu différent, parce que historiquement, le football aux États-Unis, donc il existe depuis longtemps, contrairement à ce qu'on entend tout le temps, et il est pratiqué par la classe moyenne et par la classe supérieure. Ouais. Et ça coûte très très cher de jouer au foot. Je vous donne un chiffre que j'ai en tête d'une étude qui est sortie en 2025, c'est que pour un jeune, c'est 883 $ par an pour pouvoir jouer au foot. Ça s'appelle le pay to play. Et encore, là, c'est en moyenne. Il y a des bourses pour les jeunes issus de classes défavorisées, mais il y a des ligues d'élite pour les jeunes, c'est entre 5 et 10 000 dollars pour pouvoir jouer au foot quand on est un enfant. Donc vous voyez, en fait, c'est vrai que c'est un sport populaire dans le monde entier, mais aux États-Unis, il est pratiqué par une classe moyenne ou une classe plutôt supérieure.
Est-ce que vous partagez ce sentiment, Luc Arondel? Parce que quand on voit le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, il a, paraît-il, ce soir, je regardais avant d'être en plateau, ça fait un peu le buzz parce qu'il a un jet privé pour aller de Mexico au Canada. Vous me direz, ça peut s'expliquer, hein, s'il veut assister à tous les matchs. Mais on dit beaucoup qu'il a complètement monétisé cette Coupe du Monde.
Alors, il faut séparer ce qui est de la gouvernance de la FIFA et ce qui est la philosophie de la FIFA. La philosophie originelle de la FIFA, c'est on gère et on développe le football dans le monde entier.
Ouais. Donc, c'est pour les bien-pensants, mais alors
non,
pour les autres.
Non, c'est pas du bien-pensant parce que normalement, tout l'argent qui est généré par la Coupe du Monde, normalement, redescend sur le football d'en bas. Mmh. Donc c'est pour financer, c'est reversé aux confédérations, aux fédérations. Ça sert à développer le football féminin, développer le football des jeunes. Donc théoriquement, c'est pas forcément être bien pensant. Simplement, effectivement, il peut y avoir des dérives au niveau de la gouvernance.
Si vous demandez à Platini, je suis pas sûr qu'il partage tout à fait la même ce que vous dites sur la philosophie de la FIFA.
C'est une association à but non lucratif qui a été créée en 1908 pour justement avec cette finalité de développer le football dans le monde. Donc normalement, ce football d'en haut entre guillemets doit ruisseler sur le football d'en bas.
Est-ce que on va quitter un instant. D'abord, vous avez un pronostic pour ce soir? Allez-y.
Oh ben moi, je suis supporter. Je dirais la France, on va dire 3-1.
Ouais, moi aussi, je pense que la France va gagner 3 ou 4-1.
Bon, d'accord, ok. Attention, c'est enregistré. Vous êtes.
Ouais, mais c'est le sport le plus
aléatoire du
temps.
Ah bon, d'accord, ok. C'est là les économistes qui ont fait des vrais. Vous dites dans votre livre, le football est un sport simple rendu compliqué par les gens qui n'y connaissent rien.
Oui.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que c'est une phrase d'un entraîneur célèbre de Liverpool qui s'appelle Bill Shankly qui a dit ça. Donc c'est pas nous qui l'avons dite, mais effectivement c'est parce que ce qu'on met en évidence dans le livre, c'est qu'on a tendance à appliquer des raisonnements économiques au football, alors que finalement c'est comme une activité très très particulière. Donc je donne un exemple. Par contre, c'est une des rares activités économiques où par exemple l'essentiel des revenus qui est généré par le foot, c'est récupéré par les footballeurs, par les travailleurs du football. Donc quelque part,
les travailleurs du foot, c'est les footballeurs.
Oui, bien sûr.
D'accord. Ok. Oui.
Et donc, en Europe, par exemple, il y a 70% des revenus qui sont générés par le football, qui est gagné par les footballeurs. Donc, c'est quand même très, très particulier. C'est aussi une activité, par exemple, où les clubs de foot, ça va peut-être changer. C'est pour ça, effectivement, qu'on appelle ça les 30 glorieuses et qu'on est peut-être en train de changer de période. Mais jusqu'à présent, on peut pas dire que le football était très lucratif pour les propriétaires. Les clubs de foot ne font pas de bénéfices.
Non.
Pour cette raison-là.
Mais par contre, les footballeurs en font, non?
Alors c'est quelques footballeurs, puisque en effet, ce que dit Luc, c'est que la rente elle est captée par les salariés, donc les footballeurs, mais c'est par quelques footballeurs simplement, parce que en effet c'est un métier très inégalitaire. Donc il y a une étude de la FIFPro, du syndicat international des footballeurs, en 2017, qui disait que 45% des footballeurs professionnels dans le monde gagnaient moins de $1,000. Aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu le salaire médian, c'est-à-dire le salaire qui partage la distribution en deux, c'est 1500 dollars par mois. Sachant que leur carrière est très courte, en fait, finalement, il y a très peu de footballeurs qui gagnent bien leur vie et très très peu qui sont riches, quoi, en fait.
Ouais. Oui, mais en même temps, c'est eux qu'on voit le plus. Si vous prenez là-bas, parce que vous regardez les joueurs de Ligue 1, vous regardez tous ceux qui jouent en première division, ils gagnent quand même beaucoup d'argent. Je ne parle pas des Mbappé, des Messi, des Ronaldo, parce que là, c'est hors norme. Mais
Non, parce qu'il y a 50% des footballeurs qui ont une carrière inférieure à 3 ans, ouais, dans le monde entier, mais en France, c'est pareil. Et il y a un tiers des footballeurs qui ont une carrière de 1 an, simplement. De 1 an. Ça veut dire que vous avez des footballeurs qui ont un contrat professionnel qui ne jouent même pas une seule fois en footballeur professionnel. C'est-à-dire à cause de la relégation, à cause des blessures, à cause de la concurrence des joueurs étrangers, etc. Donc, c'est pas si facile que ça, finalement, de bien gagner sa vie quand on est footballeur.
Comme vous dites, ça dépend évidemment qui. Ce que vous dites ce qui m'a étonné dans votre livre, c'est justement sur la question des salaires. Vous dites, mais même ceux qui sont très bien payés, ça peut être justifié parce qu'ils jouent, je crois que vous dites, ils jouent entre 5 et 8 ans. C'est ça un peu l'intervalle. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, mais si, ça fait plus longtemps qu'ils jouent. Vous prenez Ronaldo, ça fait plus longtemps aussi. Vous voyez, c'est non?
C'est-à-dire que c'est vrai que souvent les joueurs dont on entend parler le plus, et puis ceux, à la limite les plus talentueux, c'est effectivement sont ceux qui ont des carrières relativement longues.
Les plus longues.
Ah oui, tout à fait.
Oui.
Donc c'est sûr que et puis ils sont très médiatisés, ils font effectivement, c'est une source de revenus pour les clubs, etc. Donc forcément qu'ils sont vraiment sous les feux de la rampe, quoi.
De toute façon, il y a une forte relation entre la durée de carrière et la rémunération.
Ouais.
Donc, ça veut dire que, en effet, ceux qui ont des carrières, bon, on pense à Cristiano Ronaldo, là, ça fait 20 ans, maintenant qu'il joue.
Ouais.
En effet, lui, il a gagné énormément d'argent. Mais combien de footballeurs ont joué ne serait-ce qu'un an, qui sont inconnus en plus et qui ont eu un salaire relativement élevé pour le salarié moyen, mais qui dure tellement peu que finalement...
Vous décrivez l'économie du football. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui ressemblent à cette, en termes de business, un peu à l'architecture du foot?
Ben, je pense que le modèle qu'on a étudié pour le foot, il s'applique à tous les sports collectifs. Néanmoins, forcément, il y a moins d'argent dans le handball, le volleyball ou le basketball en France, effectivement. Mais d'une certaine manière, on peut appliquer les mêmes raisonnements. C'est essentiellement des revenus qui sont tirés de la billetterie, des sponsors et des droits télé. C'est vrai que pour les autres sports, les droits télé sont nettement moins élevés que pour le football, mais c'est plus le cas en France, parce qu'effectivement, les droits télé vont s'écrouler cette année.
Oui, vous dites qu'il faut. À un moment, je me suis dit, mais non, c'est pas. Enfin, je comprends pas. Vous dites qu'il faudrait un plafonnement salarial. Ça peut pas exister.
Alors ça, il va y avoir un plafonnement salarial qui va être imposé par la FIFA. C'est un plafonnement salarial qui est au prorata des revenus que touchent les clubs. Donc c'est une sorte de plafond. Moi, je dirais plutôt que c'est une règle de bonne gestion plutôt qu'un plafond salarial, parce que souvent, ce que les gens ont en tête comme plafond salarial, c'est ce qui se passe aux États-Unis. D'ailleurs, on est bien passé. Et donc, aux États-Unis, c'est vraiment un salary cap qui est un montant absolu et non pas un montant relatif.
Exactement. Dans les ligues fermées, en fait, comme aux États-Unis, c'est-à-dire quand il n'y a pas de promotion relégation, en fait, le salaire, il sert un petit peu de régulation pour les propriétaires. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on disait par rapport à l'Europe, où c'est les salariés qui captent la rente, dans les ligues fermées, en fait, c'est les propriétaires qui captent. Par exemple, la part des salaires dans le revenu aux États-Unis pour la MLS, c'est à peu près 25%, alors que, on l'a dit tout à l'heure, en Europe, c'est autour de 60%. Donc, vous voyez, il y a une différence énorme de philosophie. Et Luc a raison, c'est que pour pouvoir faire un vrai plafond salarial, il faut une ligue fermée. Parce que là, c'est plutôt une règle de bonne gestion, parce que vous voyez, 60% des revenus en Angleterre, c'est pas 60% des revenus en France. Donc, finalement, ça n'empêchera pas les clubs anglais de pouvoir dépenser de l'argent et d'attirer les meilleurs joueurs.
Justement, lorsqu'on regarde là, les plus gros, le classement des budgets des clubs de Ligue 1, on voit ça, c'est en France, mais c'est vous qui me faites penser, parce qu'on sait qu'en Grande-Bretagne, c'est encore plus, c'est-à-dire c'est des investisseurs, des financiers qui sont propriétaires de clubs. Bon, chez nous, il y a le PSG qui a le plus gros budget avec 850 millions, il y a l'OM, 260 millions qui appartient à McCourt, il y a Monaco, 140 millions, le Paris FC, là, c'est maintenant, c'était les Ferracci, maintenant c'est les Arnaud, il y a aussi Lyon, il y a aussi Lens qui appartient à Joseph Augourlian. Mais là, on passe de 850 millions à 60 millions pour Lens, qui a gagné pourtant la Coupe de France. Mais on voit qu'il y a des disparités absolument gigantesques. En fait, ils ne jouent pas dans la même ligue. Là, quand vous prenez le budget du PSG et le budget de l'OM et les budgets... Et le dernier, c'est le Havre avec 25 millions.
Ben oui, pour cette année, je pense que c'est la première année où il y a autant de différences, parce qu'effectivement, il y a eu aussi une baisse des droits télé. Mais il y a vraiment trois groupes. Hein. Il y a le groupe qui joue la Ligue des Champions. Donc cette année, il y avait, on va dire, au niveau des budgets, hein, il y avait PSG, Marseille. Et puis après, il y a quelques clubs qui sont à plus de 100 millions qui jouent effectivement les places européennes. Mais en dessous, effectivement, c'est des clubs qui jouent.
Oui, mais donc ça ne peut pas être la même compétition.
Non, mais d'ailleurs, c'est un vrai challenge.
Non, je pense qu'effectivement, l'avenir, c'est vraiment pour les revenus des clubs, ça va vraiment être la survie, ça va être la qualification dans les compétitions européennes. Ouais.
Non, et puis c'est un vrai challenge, parce que en effet, comme on le dit dans le livre, il y a une montée des inégalités qui est très forte entre joueurs, comme on l'a dit, entre clubs, entre ligues, et donc tout l'avenir du foot finalement va se retrouver dans la régulation et dans la redistribution un petit peu des richesses des plus riches vers les plus pauvres, que ce soit les salariés ou les entreprises, comme du moins les clubs, quoi, en fait, et les ligues.
Quel avenir vous voyez pour le football? Comment vous le voyez dans les 30 prochaines années? Là, vous avez parlé des 30 précédentes glorieuses. Moi, j'avais envie de dire, c'est un peu maintenant qu'on rentre dans les 30 années glorieuses. Mais vous disiez qu'on en sortait. Et comment on peut qualifier les 30 prochaines années ou les 10 prochaines années?
Alors, moi, du moins ça c'est mon point de vue. Après, je pense qu'il va y avoir peut-être. Alors il y a trois scénarios, mais qui vont évidemment être concomitants. Et peut-être qu'il y a d'autres États qui vont racheter des clubs de foot comme Paris, Manchester City et Newcastle. Il va y avoir des ligues qui vont émerger. Alors je pense à la Norvège, au Maroc, au Japon, à la Corée du Sud. Sans doute que ça va être des pays émergents et qui vont un petit peu revitaliser le foot. Et puis peut-être que, en fait, le troisième scénario, c'est un petit peu la création de ligues concurrentes un peu privées, etc. Moi, c'est comme ça que je le vois.
Il y a eu des tentations, hein, déjà. Ouais. Il y a eu des tentations, oui. Enfin.
Et donc, ça va être sans doute les trois scénarios en même temps, quoi, en fait.
Juste pour conclure, est-ce que cette Coupe du Monde va avoir un impact sur le football américain, mais enfin le football européen américain, vous voyez, le football tel qu'il est joué chez nous aux États-Unis.
Alors c'est ce que disait Richard aussi.
Soccer, absolument, oui. C'est comme ça qu'on dit.
Il ne faut pas négliger la culture soccer ou la culture football européen aux États-Unis. Il y a eu quand même
ça n'a rien à voir avec le football, le vrai football américain.
Oui, d'accord, mais le soccer aux États-Unis, il y a une histoire. Les championnats qui ont été créés dans les années 20, le soccer est apparu au début du siècle en même temps. Effectivement, nous, c'est ce qu'on a mis en évidence dans un autre ouvrage, c'est le fait que finalement, le défaut du soccer américain, c'est qu'économiquement, il a pas émergé, quoi, je veux dire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une culture foot. Et effectivement, aussi, si vous regardez le championnat, la MLS aux États-Unis, depuis 30 ans, et c'est en pleine croissance économique. Et je pense que la Coupe du Monde, ça a forcément un effet positif sur les affluences, sur les investisseurs qui investissent dans le foot, etc. Et je pense que ça peut avoir un impact. Oui.
J'ai le temps de rajouter un petit truc. Alors, et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les championnats professionnels de soccer aux États-Unis ont été créés avant le championnat professionnel en France.
Oui, c'est ça. Donc,
il y a une grosse histoire, en fait, qui a été arrêtée par la crise économique de 1929 et puis par les médias qui n'ont pas relayé le soccer à un moment donné.
Et peut-être que ça va changer. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Deux économistes du sport. Voilà. Foot Business, les 30 Glorieuses, et c'est publié chez Odile Jacob. Merci Luc Arondel. Merci Richard Duhautois. Voilà. Dans un instant, on va parler peut-être du foot, plutôt de télécom. Je reçois le patron de Bouygues, Olivier Roussin. C'est la première fois qu'il va s'exprimer ici sur le rachat des SFR. Qu'est-ce que ça peut changer avec un impact salarial très, très important. À tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon.
Vous êtes bien dans le 18-19. Il a mis 8 milliards et demi sur la table pour participer là, au rachat de SFR aux côtés de Orange et de Free. Bonsoir Olivier Roussin.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Merci d'être là. Vous êtes directeur général de Bouygues. Bouygues qui donc en fait empoche le plus gros morceau de SFR, quoi, c'est à peu près 40% que vous
42%
avez. 42%. Oui, car je disais à peu près 42%.
À peu près 40%.
Effectivement, exact. À peu près 40%. Vous êtes l'homme des chiffres.
Vous avez raison, environ
40%. 42%. On va rentrer un peu plus dans le détail parce que je crois que c'est la première fois que vous vous exprimez en tous les cas dans un média audiovisuel. Vous avez donné une interview aux Échos. Il y a quand même encore beaucoup de questions. Il y a la question de l'autorité de la concurrence qui va être un peu décisionnaire. Et puis, il y a à savoir à qui profite le crime, si j'ose dire. C'est-à-dire, est-ce que ça va profiter à vos actionnaires? Est-ce que ça va profiter peut-être aux salariés? Est-ce que ça va profiter à nous, consommateurs, ou aux entreprises? D'abord, qu'est-ce que vous rachetez exactement?
Alors, dans le périmètre que l'on reprend des CFR, et ça a été des discussions assez longues avec les deux autres membres du consortium, on reprend l'activité entreprise, ce qu'on appelle le B2B. On reprend une partie de l'activité SFR, de clients SFR, de ceux qui ont le carré rouge, que ce soit sur la partie fixe ou sur la partie mobile. Et on reprend l'activité MVNO, une activité MVNO en particulier qui s'appelle Prixtel.
D'accord.
Et on reprend surtout, quand je dis surtout, c'est quelque chose d'important pour nous, c'est nous rachetons le morceau de réseau que nous partagions avec SFR pour reprendre la main sur la totalité du réseau que nous utilisons.
D'accord, et c'est là où justement il y a peut-être l'autorité de la concurrence qui vous demandera de faire des concessions, mais on viendra. Vous reprenez des boutiques aussi, 150
Alors,
boutiques.
Alors, il y a le réseau de boutiques de SFR.
C'est 150 que vous reprenez?
Au total, vous avez. On s'est engagé à reprendre chacun un certain nombre de boutiques pour pouvoir pour pouvoir assurer la continuité de service, notamment, et offrir une possibilité de job aux collaborateurs qui s'y trouvent.
Une possibilité de job.
C'est-à-dire pouvoir reprendre les salariés qui sont à l'intérieur et puis faire des propositions pour l'ensemble des salariés de SFR Distribution. Et on reprend globalement les différentes infrastructures qu'ils ont dans le... actuellement, toutes leurs infrastructures de techniques. Et ça, c'est majoritairement Bouygues Télécom qui les
reprend. Oui, en fait, quand on disait que vous repreniez le plus gros morceau, c'est effectivement vrai. Les boutiques, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Les boutiques, vous les gardez toutes ou pas?
Non, les boutiques, la proposition que nous avons faite... Vous avez un problème très bête dans les boutiques. Vous avez des boutiques qui sont parfois les unes à côté des autres. Et vous avez, pour un certain nombre de contrats de boutiques, la nécessité... de garantir, quand on a un club associé, par exemple, on lui garantit qu'il n'a pas une boutique de la même marque dans un rayon de 500 ou 600 mètres.
D'accord.
Et donc, si vous vous trouvez avec une boutique juste à côté, ce n'est pas possible. Il faut dissocier
donc,
la partie physique des boutiques de la partie employée des boutiques. La partie physique des boutiques, c'est de reprendre chacun 40 boutiques.
Oui. Chacun 40 boutiques. Ça veut dire que, la marque SFR, elle va... disparaître pour vous ?
Alors, la marque SFR, elle va rester présente dans les bases. Elle ne sera pas utilisée d'un point de vue commercial. Mais le temps de migrer... Une chose importante dans ce projet, c'est que la durée de migration que l'on a annoncée, c'est une durée de migration qui s'étend sur 30 mois.
Oui.
Il faut bien comprendre. Hein. La première étape, elle dure 18 mois. C'est la phase d'antitrust. Pendant 18 mois, il ne se passe rien.
Oui.
Au bout de 18 mois, si nous avons l'autorisation de faire le deal... vous avez une nouvelle période de 30 mois qui s'ouvre, qui est cette période de migration. Et donc, pendant toute cette période, vous prenez les clients de la base SFR pour les loger soit chez Orange, soit chez Iliad, soit chez nous. Et donc, dans toute cette période-là, la marque, elle continue d'exister pour les clients. En revanche, on ne l'utilise pas d'un point de vue commercialisation.
D'accord, ok. Mais c'est long, c'est très très long, non ?
C'est très long parce que c'est gros. Le nombre de clients à migrer est important. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les opérateurs cherchent à migrer en réduisant au maximum la gêne pour le client. C'est-à-dire qu'on essaye de faire un maximum de choses qui font ce qu'on appelle over the air, c'est-à-dire on télécharge directement dans son mobile, on vient le changer de façon très sans couture pour lui, pour éviter que le client soit gêné par le changement d'opérateur.
Mais par exemple, SFR Business, qui est un gros morceau pour SFR, devient Bouygues Télécom Business.
La marque
deviendra.
SFR Business, on la reprend et progressivement, au gré des renégociations des contrats, ça deviendra effectivement Bouygues Télécom Entreprise.
D'accord, Bouygues Télécom Entreprise.
Enfin, partie business, quoi.
Donc,
ça ne sera plus SFR.
À terme, donc en 2034, parce que ça, le processus est long.
Ce process long, imaginons que nous ayons, on fait un cas simple, imaginons que l'autorité de concurrence, je prends des règles simples, nous donne l'autorisation le 1er janvier 2028. Ouais. Nous avons 30 mois de migration, ça nous pousse à juin 2030. À ce moment-là, normalement, vous avez réussi à renommer la
D'accord.
totalité
Donc
de vos clients.
Donc en 2030, il n'y aura plus de SFR, il n'y aura
normalement,
plus de marque,
donc,
en tout cas,
voilà.
chez vous. Et quel engagement vous êtes prêt à prendre pour l'emploi, pour rassurer les salariés de SFR, en fait ? Parce que j'ai reçu la déléguée, justement, CFDT, sachant qu'en fait, le processus social, ça commence déjà, quoi.
Alors, il y a quelque chose...
Oui, il y a vraiment deux calendriers.
Complètement. Il y a deux choses qui sont... Il y a des choses qui ne sont pas très connues. Le premier sujet, à très court terme, c'est tous les salariés qui vont être dans les boutiques. Parce qu'on peut raisonnablement comprendre que si la marque disparaît, vous avez moins de gens qui se présentent dans les boutiques. Sur le reste, notre problématique n'est pas tant notre problématique, c'est de garder les collaborateurs. Clairement, pendant les 30 mois de migration, il faut faire marcher l'opérateur et il faut que les salariés restent. C'est-à-dire que très concrètement, notre problématique est une problématique d'abord de rétention. Nous, tous les salariés de Bouygues Télécom, de SFR Business, basculent automatiquement chez Bouygues Télécom dès le premier jour, puisqu'on achète l'activité, dès lors qu'on a l'autorisation par l'antitrust, encore une fois. Et puis, sur le reste, vous avez une société qui va être la société qui va réaliser la migration des clients pour aller vers les opérateurs cibles. Cette société, elle dure 30 mois et nous avons besoin que les collaborateurs y restent dans cette société.
Et comment faire pour qu'ils restent ?
Notre problématique, ça va être une problématique de rétention. Ça ne va pas être une problématique de départ.
Mais ça, c'est du côté des SFR qui vous leur demandez de gérer ça ?
Ça veut dire que nous allons, dès le moment où l'antitrust nous donne l'autorisation, si nous l'avons, il faut mettre en place des plans qui vous garantissent que les gens restent. pas que les gens partent,
donc
que les gens restent.
Mais quel type de plan, comment
c'est des plans de rétention que vous devez mettre en œuvre. D'accord. Pour garantir qu'ils restent. S'ils s'en vont, vous ne savez pas faire tourner cette société dont vous avez besoin pendant 30 mois. Ouais. Puis après, vous les dispatchez progressivement.
On voit que, donc pour vous, c'est vous qui rachetez le plus gros morceau, c'est 8 milliards et demi sur la table. Est-ce que vous vous positionnez comme un peu le concurrent direct de Orange? On s'en souvient, à l'époque, Martin Bouygues avait voulu une partie d'Orange, enfin devenir l'actionnaire de référence d'Orange. Il avait été bloqué, notamment par le président, l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un peu une revanche? La réponse du berger à la bergère, c'est quoi?
Les télécoms, c'est une particularité, c'est une industrie de coûts fixes. Plus vous avez de clients, et plus vous avez la capacité à dégager des moyens qui vous permettent d'investir et donc de capter des clients et de pouvoir continuer à croître. Là, le nombre de clients que l'on injecte sur cette industrie de coûts fixes, notre réseau, nous permet effectivement de devenir un numéro 2 important. Et donc, dès lors que vous êtes un numéro 2 important, eh ben, ça vous permet de vous dire, si je suis numéro 2, je vais chercher à réduire l'écart avec le numéro 1. C'est assez naturel.
Ouais. Est-ce que cette consolidation des télécoms, j'ai envie de rappeler que le top départ, si j'ose dire, a été donné ici même par Benoît Coré, le président de l'autorité de la concurrence, qui sur ce plateau a dit, s'ils arrivent avec un projet, on va regarder, en tous les cas on n'est plus fermé. On voit bien qu'il y a une évolution de la concurrence, de la politique de concurrence au niveau européen, au niveau français. Pour vous, ça va être au niveau français, l'étude du dossier?
Alors, en fait, il faut bien comprendre que dans cette opération, nous avons 3 notifications à la concurrence.
Ouais.
La notification d'Iliad qui se fait à l'Europe, vous avez la notification d'Orange qui se fait en France, la notification de Bouygues Télécom qui se fait en France.
Ouais.
Vous avez 2 dossiers en France, un dossier à Bruxelles.
C'est en fonction du chiffre d'affaires, du pourcentage du chiffre d'affaires, 70% du chiffre
d'affaires.
En Europe,
hors de France.
Exactement.
Donc, vous avez soit la capacité de mettre toutes les affaires en France, soit de mettre toutes l'instruction de l'entité de concurrence, les mettre à Bruxelles. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est quelque chose qui n'est pas décidé, c'est pas quelque chose avec un caractère très automatique. Il y a un truc qu'il faut bien avoir à l'esprit. La règle de droit qui s'applique dans le droit de la concurrence, c'est exactement la même à Bruxelles et à Paris.
D'accord.
La même.
Donc,
vous n'avez pas un traitement différent selon que vous soyez à Bruxelles ou que vous soyez à Paris. Donc, c'est assez neutre.
Et quelles concessions vous êtes prête à faire, justement, pour séduire la concurrence? On sait que, d'abord, vous êtes un habitué, on en dira un mot tout à l'heure, parce que quand il y a eu le dossier M6 TF1, on ne gagne pas toujours. Vous avez peut-être appris quelque chose depuis. Mais surtout, vous avez fait des grosses concessions jusqu'à un point où ils vous ont demandé quasiment de ne pas racheter M6. Là, vous avez dit basta. Mais là, vous êtes prêt à aller jusqu'où? La vente des réseaux à des investisseurs, des infrastructures, où?
La logique de l'entité de concurrence, c'est de s'assurer. L'entité de concurrence, ce qu'elle veut, c'est qu'avec le nombre d'acteurs qui subsistent, elle ait la certitude que la concurrence est animée. Et donc, il faut qu'il y ait des conditions pour faire ce qu'elle appelle émerger, ce qu'on appelle un maverick, c'est-à-dire quelqu'un qui anime le marché. Et donc, toute l'entité de concurrence, son seul objectif dans son instruction qui dure quasiment 18 mois, c'est qu'est-ce que je vous donne comme contrainte pour garantir que le marché reste animé. Et donc, ça, précisément, il faut le demander
soit
Anthony Vélan pour essayer de voir qu'est-ce qu'on va nous demander. Mais c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que leur objectif, c'est vraiment...
À votre avis, ça va se positionner où? Vous voyez, c'est sur les infrastructures, c'est les pylônes, ça va être sur les réseaux.
Alors, vous avez probablement des obligations de
la fibre.
Si vous regardez ce qui s'est passé en Angleterre, par exemple, avec l'Ofcom a demandé des engagements d'investissement aux opérateurs pour couvrir encore plus le territoire. On peut vous demander des investissements pour avoir plus de résilience. On peut vous demander... Enfin bref, c'est ce qu'on appelle toute l'efficacité que l'on peut fournir, dont typiquement Benoît Coeuré a parlé dans une interview récente. Très clairement, c'est l'autorité qui va créer les conditions qui garantissent que les choses se font au bénéfice du consommateur, puisque le logiciel de l'autorité, c'est celui-ci.
Oui, parce qu'il a dit dans une interview à nos confrères du Monde, il a dit c'est pas une opération qui va de soi.
Ça ne va pas de soi,
ça ne va pas de soi. Je vois que vous connaissez par cœur, vous avez noté.
Chaque mot.
Chaque mot, mais les mots...
On fait l'exégèse du texte.
Oui, mais les mots sont assez forts, malgré
tout. Oui, mais ça veut dire que...
Ça ne va pas de soi.
Non. Non, je pense qu'il y a un chemin, mais il n'est pas garanti. Donc, maintenant, on est plus optimiste que pessimiste. Je crois qu'on a plus de chances de réussir que de rater, mais rien n'est écrit. Donc, c'est tout le travail qu'on va faire pour rassurer l'autorité et lui garantir qu'on est bien capable de maintenir la concurrence en France. C'est oui. ça son objectif.
Alors, maintenir la concurrence, pour une raison simple, c'est de maintenir les prix et les investissements. Parce que vous l'avez dit, cette consolidation, votre argument de poids pour vous, opérateurs, c'est de dire ça va nous permettre d'investir, mais vous pouviez déjà le faire. Et puis, la question maintenant, c'est le prix pour les consommateurs et pour les entreprises.
Alors, précisément, dans les engagements, enfin dans la mécanique que met en œuvre la concurrence, l'antitrust, pardon, c'est vraiment de s'assurer que précisément, ce qu'elle a imaginé produit des prix qui restent dynamiques pour les clients.
Mais ça en peut même être quoi temps, donnez-nous un exemple, ça peut être quoi?
Oh, écoutez, là, on va les laisser nous faire des propositions parce que je pense qu'il y a...
Vous voulez surtout pas lui donner des idées, quoi.
Oui. Non, ils en ont, ils n'ont pas besoin de nous, ça, je suis pas inquiet.
Oui, non, parce que c'est, il y aura forcément une hausse. Le temps...
Il n'y aura pas
de hausse jusqu'en 2024.
Tant que vous courez pour être capable de doubler celui qui est devant vous, ça vous rend dynamique. Et ça vous oblige à être imaginatif et de jouer vraiment sur la concurrence. C'est ce qu'on fait depuis maintenant pas mal d'années et c'est ce qu'on continuera de faire. Et je pense qu'Iliad, de son côté, fera au moins l'équivalent. J'ai pas de doute.
Lui, il a une stratégie qui est plus internationale. Il se développe beaucoup en Pologne, notamment. Mais vous disiez, il faut un maverick. C'est vous le maverick, Olivier Roussin?
Le maverick, il vous faut un maverick dans le mobile, il vous faut un maverick dans le fixe. Si vous regardez l'état du marché, celui qui anime le plus le marché du fixe, c'est clairement Bouygues Télécom depuis maintenant de nombreuses années. On a besoin de continuer à grossir et on va continuer à grossir. Vous avez jusqu'à maintenant eu un maverick dans le mobile, c'était plutôt Iliad. Et manifestement, il a plutôt prévu de continuer à l'être. Donc il me semble que des mavericks, il y en a.
Donc vous êtes plutôt dans le fixe?
En tout cas, à date, c'est nous le
maverick. Là, ce que vous aimez bien, vous fixez des objectifs, Olivier Roussin, votre objectif, c'est d'être aussi gros que Orange, c'est quoi?
Notre objectif, c'est de pouvoir continuer à grossir sur le marché français, c'est de pouvoir nous développer sur le marché entreprise. C'est un marché qui est assez déséquilibré, dans lequel vous avez une part très importante encore détenue par l'opérateur Orange. Et donc là, on a des vraies marges de manœuvre pour aller récupérer, pour aller grossir et pouvoir récupérer un certain nombre de clients. C'est tirer parti de ce que nous apporte SFR par tout ce qu'il fait dans ce qu'on appelle l'ICT, c'est-à-dire toutes ces opérations de services de réseau et de connectivité, autres que la connectivité, sur des choses qui sont intéressantes, qui sont des choses que les entreprises utilisent de plus en plus, tout ce qui va être côté cyber, tous ces sujets qui sont des sujets connexes et sur lesquels on a une vraie opportunité de développer plus, parce qu'SFR était bien meilleur que nous dans ce domaine.
Est-ce que pour vous...
Et bien meilleur que nous, parce qu'il est toujours là, pendant 18 mois encore.
Oui, mais c'est là où on se demande qu'est-ce que peut devenir une entreprise qui sait qu'elle va être rayée de la carte et pendant 2-3 ans, vous voyez, jusqu'à l'accord de...
La discussion que nous avions eue sur TF1 M6 a duré 15 mois.
Oui.
Elle n'a pas tué M6. Hein.
Ouais. Non, c'est sûr. Bonne réponse. Ok, autant pour vous. Les synergies, vous les avez estimées à combien?
Ce que l'on a dit, c'est que ce que l'on considérait comme le niveau de synergie qu'on était capable de dérouler à partir de mémoire, je crois qu'on a dû dire que c'était à partir de 32. C'est quelque chose qui est proche du milliard d'euros qui est réalisé, donc c'est quelque chose de significatif.
D'accord, donc il faut attendre 2032 pour que ça apporte des synergies.
C'est un projet très long.
Oui, c'est un projet de long terme.
L'intégration est extrêmement élevée, en fait.
Je ne sais pas si vous avez vu ces déclarations de Sébastien Soriano, qu'on connaît bien, qui est l'ancien président de l'ARCEP. Hein. Il a dit, en fait, ceux qui vont gagner le plus dans l'opération, ce sont les actionnaires.
Je crois que tous les mots comptent dans ce que vous dites.
Oui.
C'est l'ancien patron de l'ARCEP, dans un monde qui va très très vite, c'est la préhistoire, en fait. Dans les chiffres qu'il a donnés, il m'a semblé qu'il n'était pas très au courant.
D'accord. Donc lui, il dit, en fait, surtout...
Manifestement, il a besoin de revoir ses métriques.
D'accord. Donc vous niez que ça va rapporter des milliards aux actionnaires.
Vraiment, je pense que les métriques ne sont pas les bonnes. Mais en même temps, il y a longtemps qu'il a quitté. Hein. Ça fait déjà 4-5 ans.
D'accord.
C'est la préhistoire dans les télécoms. Hein.
Autant pour lui. Est-ce que pour vous, sur les engagements tarifaires, ça peut se transformer? Est-ce que ça peut s'écrire?
Mais l'autorité est capable de vous formuler des choses de ce type, bien sûr.
Oui, d'accord.
Mais encore une fois, celui qui est le plus à même de vous parler de ça, c'est soit
oui, mais enfin, j'imagine
Anthony Vélan, soit Benoît Cœuret avec l'antitrust française.
Oui, mais j'ai quand même vu que vous avez certainement des idées très fortes sur la question.
On imagine plein de choses pour vérifier ce qui est possible.
Bien sûr.
Et vous arrivez avec un certain nombre de propositions, par exemple. Oui.
Vous arrivez avec des propositions.
Mais qu'on aura l'occasion de débattre avec l'autorité.
Quand?
Quand on va commencer, il faut déjà déposer à l'autorité nos notifications.
C'est pas encore
déposé. Va se faire. Non, parce que c'est des choses qui sont lourdes à rédiger, qui vont se déposer dans quelques semaines. Puis après, vous avez un process, ce qu'on appelle la pré-notification. Ensuite, vous avez un test de marché qui va être réalisé par l'autorité, que ce soit à l'Europe ou soit en France, qui interroge en fait le marché pour dire « On m'a proposé ça, vous en pensez quoi ? Il faut faire quoi ?» Ensuite, elle donne un état de ce qu'elle considérait, elle donne ce qu'on appelle le state of play, elle considère que l'opération est faisable ou pas faisable selon telle ou telle condition.
C'est
ensuite,
vrai que vous êtes
dans le process précis qui vous permet d'avoir les propositions qui vous sont faites et les demandes qui vous sont faites.
Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est la fin de la guérilla tarifaire entre vous,
Je ne crois pas, non.
Bah, le fait qu'il y ait ces fers en moins, c'est...
Non, je pense qu'à 3 ans, on peut déjà faire pas mal de choses. Oui. Non, sincèrement, je crois que le marché va rester animé.
On dit qu'il y a des réunions secrètes, vous n'en êtes pas caché en disant vous restez toujours intéressé par le rachat d'M6. On va rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs que vous étiez lancé dans cette opération et que 21. Finalement, ça veut dire longtemps.
Nous avons échoué.
Et vous avez échoué. Ça fait pile, c'était en juillet.
C'était juin 2022 avec une sentence véritable en septembre 22.
Voilà, exactement. Mais c'était comme à l'été, au début de l'été, absolument. Ans, alors, je précise que vous n'êtes pas seul. En lice pour le rachat d'M6, il y a notamment Rodolphe Sadé, qui est le propriétaire de BFM, qui est actionnaire. Lui, il a l'avantage d'être actionnaire de M6. Et puis en plus, lui, pour le coup, il n'aurait pas de problème de concurrence. Vous risquez d'avoir de nouveau un problème de concurrence, non ?
Je crois qu'on a un petit sujet à vendre de calendrier. Oui. Je vous rappelle qu'avec le renouvellement d'M6 qui a été réalisé en avril 23, il n'est pas possible de changer l'actionnariat de la chaîne M6 avant avril 28.
Oui.
Nous sommes aujourd'hui en juin 26, c'est pas tout à fait dans deux ans, mais pas loin. Si nous avions une procédure de concurrence, si typiquement le groupe TF1 parvenait à faire une proposition sur M6, on aurait une analyse d'autorité de concurrence qui très probablement durerait 15 à 18 mois, c'est-à-dire à peu près la même chose que ce que l'on a à partir télécom. Ça veut dire qu'en termes de temporalité, vous êtes un peu en avance sur le calendrier.
Pas forcément, regardez, vous me parlez de 2030-2034 là sur le rachat.
Non, mais je vous parle déjà simplement la nécessité de trouver des accords, c'est un peu tôt.
Oui.
Mais on est dans un monde qui est en train de bouger très vite.
Vous êtes toujours...
On a un linéaire qui est en train de basculer extrêmement vite.
Oui, le streaming par une part très importante.
Le streaming est en train de monter de façon importante.
Qui pourrait vous donner raison par rapport à l'autorité de la concurrence.
C'est possible, en effet.
Voilà.
Mais avoir raison trop tôt, c'est avoir tort.
Oui. Mais en tous les cas, visiblement, vous regardez le dossier de très très près.
Non, je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit que ce dossier continuait... Le rationnel que nous avions en 21 continue d'exister. Notre intérêt, c'est de pouvoir avoir une fusion des deux, simplement pour une raison très simple, c'est que les plateformes de streaming que l'on crée, plus elles sont grosses et plus elles sont capables d'attirer de la pub digitale face à YouTube, face aux différents players que vous avez.
Mais d'une manière ou d'une autre, ça veut dire, un, les télécoms, là vous faites quand même un très gros rachat. Deux, la télévision, l'audiovisuel vous intéresse, continue à vous intéresser. On est d'accord. Oui. Et vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus. Parce que vous avez déjà procédé à une autre diversification en mettant 7 milliards sur la table. Ça, c'était pour racheter Equans, ce qui fait 5 ans. Là, vous avez mis 8 milliards et demi sur les télécoms. J'ai envie de dire, tiens, ça fait un nouvel ADN pour le groupe Bouygues, une nouvelle génération. Ça veut dire que la nouvelle génération est moins intéressée par peut-être la construction, les routes, par Colas ou autre.
Les raisons pour lesquelles on a, pour Equans, c'était une vraie diversification pour être dans des métiers dont on pense, et d'ailleurs ça se vérifie, que l'électrification est quelque chose qui est un marché très durable, qui est dans le monde occidental dans lequel on est installé avec Equans, qui a devant lui quasiment 20 ans. Donc c'était ça la raison de cette diversification. Les télécoms, c'est une opportunité, c'est une industrie de coût fixe. Si on a l'opportunité de grossir, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on le fait. La partie M6, s'il est possible de la considérer si on peut la considérer dans des discussions qui n'ont pas encore lieu, mais qui pourraient avoir lieu ultérieurement, c'est quelque chose qui nous permet de savoir mieux répondre à l'évolution du marché.
Oui.
Et donc,
c'est quand même un gros morceau, c'est un énorme morceau.
Ce sont des opportunités qui se présentent qui, par définition, il faut les étudier quand elles sont là. La bonne nouvelle, c'est qu'M6, encore une fois, ne peut pas changer d'actionnaire avant avril 28.
Oui, pas tout de suite. Ça veut dire qu'il y a le temps de digérer SFR. Mais vous avez quand même quelqu'un en face
qui ne peut pas changer l'actionnariat d'M6 avant avril 28.
Oui, mais qui lui a les poches un peu plus pleines.
Même s'il n'a qu'une phase 1, pas une phase 2, pardon.
Lui, il a les poches un peu plus pleines.
Ça, je ne sais pas.
Est-ce que ça veut dire que vous pourriez, que Martin Bouygues, la famille Bouygues, serait prêt à remettre au pot?
Écoutez, la partie M6, c'est une chaîne qui est composée de son linéaire, que l'on voit d'ailleurs avec la Coupe du Monde à l'heure actuelle, et de son streaming. Mmh. Quand vous regardez l'évolution du linéaire, le linéaire, il est plutôt en baisse à l'heure actuelle. Ce qui est important de considérer, c'est quelle est la dynamique du linéaire d'un côté et du streaming de l'autre pour avoir une véritable compréhension de ce que coûte l'objet en question. Et c'est quand vous l'avez que vous êtes capable de formuler une offre qui soit une offre intéressante pour vos actionnaires.
Ouais. Comment vous financez tout ça? Vous avez financé
On l'a précisé, il y a une des règles qui est importante au sein du groupe, c'est de garder ce qu'on appelle un statut d'investment grade. Investment grade, c'est une notation qui est donnée et qui garantit qu'on accède à des conditions d'intérêt, qui sont des conditions importantes. Et la règle qui est derrière, c'est celle que Martin donne toujours. Il est important que l'avenir du groupe soit décidé par le groupe et pas par les banques. Et donc, nous devons rester toujours investment grade et donc ne pas faire des choses qui nous feraient perdre ce statut d'investment grade.
D'accord. Là, et donc là, avec les 8 milliards
nous
5 sur la table...
Nous sommes encore investment grade.
Vous êtes encore investment grade. Et donc, ça veut dire que ça vous...
Le groupe dégage du cash chaque année. Regardez.
Ça vous ouvre une autre possibilité. À quelle échéance?
Equans a dégagé 3 milliards de cash depuis que nous l'avons acquise en octobre 22. À fin 2025... Et Equans avait généré 3 milliards. 3 milliards, c'est pas mal. C'est presque la moitié de ce qu'on a payé.
D'accord, ok.
Donc, une formidable machine à cash.
Donc, vous avez encore des marges de manœuvre. C'est ça que c'est le message que vous êtes en train de faire passer.
Nos métiers,
quoi, c'est
oui.
ça
on peut continuer à développer nos métiers.
Oui. D'accord.
Donc, il faut être prudent dans les choix qu'on fait.
On va quand même parler, même si vous n'avez pas complètement répondu à ma question, sur nouvel ADN pour Bouygues, plus Telco, nouvelle génération qui commence à prendre le pouvoir au sein du groupe Bouygues. Mais on va quand même parler de construction, on va quand même parler de logement, parce que c'est un point important.
Oui.
Avant, je voulais qu'on... Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous allez... Il y a une sorte d'union sacrée entre les trois grands constructeurs, vous, Vinci et Fage, pour construire les futurs EPR2 d'EDF?
C'est pas exactement comme ça que les choses se présentent. C'est-à-dire
D'accord.
qu'il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été fait par EDF.
Oui.
EDF tient le raisonnement suivant. Elle se dit que s'il allait capable d'aligner un même groupement d'entreprises pour faire ses différents paires d'EPR, elle pense que la réplication, l'industrialisation de la construction va en faire baisser le coût. Et on peut raisonnablement penser qu'il y a au moins 20% de gains à aller chercher par l'industrialisation. Et le constat qui est fait, c'est de dire à un instant donné, un seul de ces trois majeurs que vous venez de donner ne pourrait pas, pour qu'il ait l'effet de réplication, qu'il les construise tous. Il n'aurait pas la capacité à tous les construire.
Oui. Donc,
finalement, l'approche que EDF est en train de pousser, c'est de se dire, est-ce qu'il est possible de constituer un groupement avec des acteurs nationaux qui sont des acteurs...
Et donc,
une vraie expérience pour réussir à baisser le coût unitaire.
Et donc,
c'est ce qu'est en train d'étudier EDF et c'est ce que nous répondait EDF.
D'accord. Et mais vous serez favorable à ça? C'est ça que C'est ça que je mesure.
Oui, oui, clairement. C'est-à-dire
d'accord,
faire partie d'un groupement, c'est quelque chose qui nous convient. Nous, on a une vraie expérience.
Ça changerait
dans le
quelque chose
PR.
De travailler avec Eiffage et Vinci?
On travaille déjà dans des projets à l'international avec Vinci relativement souvent. On a travaillé aussi avec Eiffage en France, mais à l'international, sur des grands projets, on a souvent travaillé avec Vinci. On travaille naturellement beaucoup ensemble.
Ouais.
Tchernobyl, typiquement, on l'a fait avec Vinci.
Oui, je ne sais pas si c'est une référence, mais enfin bon.
Ah si,
mais en tous les cas,
sarcophage, si, son étude.
Le sarcophage, oui. Est-ce que, à propos de rachat, on en avait déjà parlé, SPI, ça peut intéresser Equans? Et donc vous, Olivier Roussard?
SPI, c'est une société qui est devenue maintenant une société très allemande, plus que française.
Ouais.
Gauthier Louette a fait un travail assez énorme, assez fantastique.
Et
Si vous réussissez à faire l'acquisition de SPI, vous avez automatiquement une position allemande extrêmement forte, puisque plus de la moitié du chiffre d'affaires est fait. Mais ça me paraît, je ne crois pas que SPI soit à vendre à l'heure actuelle.
D'accord, non, mais il y a toujours des mouvements de capital importants. Puisqu'on est en Allemagne, du siège de la BCE, la BCE a donc augmenté ses taux d'intérêt là. Certains disent, attention, ça peut peut-être casser la croissance, même s'il y avait une inflation effectivement élevée. Est-ce que pour vous c'était la bonne décision, surtout que au regard d'aujourd'hui, on se dit qu'il y a peut-être un accord au moment où je vous parle. Je vois la photo avec tous les grands de ce monde réunis à Évian pour le G7. Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que notamment ça peut avoir un mauvais impact sur le logement?
Le logement, il est en panne. Mmh. Il est en panne depuis maintenant pratiquement une année et demie. Il est en panne pour des raisons assez simples. Hein. Le logement en France, il fonctionne sur trois pattes. On a coupé une patte, et ben il marche moins bien.
Ouais.
Malheureusement, les primo-accidents continuent d'arriver et les banques jouent le rôle pour aider les investisseurs, enfin les primo-accédants à pouvoir accéder en l'occurrence. Mais la patte d'investisseur a été coupée avec la fin du dispositif. C'est une décision du gouvernement. Et donc, en clair, le jambrin existe, mais il est petit en volume. Mmh. Et donc, à ce stade, l'immobilier, il est à l'arrêt. Ouais. Et ce n'est pas une situation qui est tenable.
Et donc la hausse des taux, ce n'est pas une bonne chose.
La hausse des taux, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors pour l'instant, néanmoins, tant que l'on reste, nous on considère que dans les taux dans lesquels on reste à l'heure actuelle, on n'est pas encore sur un frein à l'acte d'achat. Et vous le voyez d'une façon assez simple, les taux de désistement, le vrai indicateur qui vous permet de voir si ce n'est pas possible d'emprunter, c'est le taux de désistement de ceux qui se présentent pour acheter un appartement. Taux de désistement moyen, il est entre 28 et 30%. Il était monté en 22 à 50%. Là, à l'heure actuelle, on est à 30. Donc, on a un système qui continue de fonctionner sur les accidents. Le seul problème, c'est qu'il nous manque une patte, il nous manque la patte des investisseurs particuliers.
Ouais. En conclusion, Olivier Roussin, c'est 10 ans. Ça fait 10 ans que vous êtes à la tête de Bouygues.
Je suis arrivé en mai 2000. Oui, c'est ça, août 2016, pardon, tant pour moi.
Bah, donc, ça fait 10 ans, non ? Vous qui êtes censé être le roi des chiffres, là, je crois qu'on peut, on peut s'inquiéter.
Ça passe vite.
Donc, ça passe vite. C'est quoi votre ambition là, pour les 10 prochaines années, pour vous ? Enfin, je veux dire, pour le groupe Bouygues.
Écoutez, le groupe Bouygues, il est de plus en plus diversifié, de plus en plus international, et ça lui permet d'avoir une très grande résilience dans ce qui se passe. On est présent dans 80 pays, on est très présent quand même dans le monde, ce qu'on appelait occidental avant. On est sur des marchés qui sont plutôt soit des besoins primaires, soit des marchés porteurs. Et donc, on a tous les ingrédients pour continuer à développer le groupe dans de bonnes conditions.
Oui.
En ayant les moyens de résister aux différents soubresauts, parce que les crises, on n'en a pas manqué depuis 2020.
Les télécoms à l'international, enfin européennes,
non,
parce que...
Ça, non, c'est un truc qu'on a déjà annoncé à plusieurs reprises. Part du principe qu'il est vraiment possible en France de faire des choses.
De développer, qu'il y a des choses à faire. À condition d'avoir le feu vert de l'autorité de la concurrence.
Nous verrons bien ce que dira l'autorité.
Merci beaucoup, Olivier Roussin, d'être venu ici, sur le plateau de BFM Business, donc le patron du groupe Bouygues. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin du 18-19. Tout de suite, vous retrouvez pour le grand journal de l'Écho, Erwan Maurice. Nous, bien sûr, on se retrouve demain. Bonne soirée et bon foot.
Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business.